la parole au peuple d'Afrique.
Le journal des auditeurs sur Africa numéro 1 avec Francis Laloupeau.
Aujourd'hui vendredi, une revue d'actualité de la semaine. Retour sur trois événements au cœur de l'actualité africaine. L'élection à la présidence de la commission de l'Union africaine de la Sud-Africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma. Retour sur le premier tour des législatives. C'était le 15 juillet dernier au Congo-Brazzaville et un anniversaire exceptionnel. Celui de Nelson Mandela, c'était cette semaine. Mais avant d'aborder cette actualité, voici quelques commentaires sur d'autres sujets d'actualité qui ont retenu l'attention des auditeurs. Voici le répondeur du JDA.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Oui, moi je comprends pas les Africains. Mais à chaque fois, vous dites que vous êtes souverain. À chaque fois, vous dites que vous êtes des panafricains. Mais quand il y a un président qui est élu en Europe ou aux Amériques, vous êtes les premiers à dire que oui, ça va changer quelque chose en Afrique. Mais moi, je ne vous comprends pas. Vous voulez être souverain et vous comptez encore sur les Blancs. Mais où allons-nous? Où va en Afrique? Que voulons-nous? Moi, je commence vraiment à m'inquiéter pour cette Afrique-là. Surtout avec les nouveaux intellectuels-là, les soi-disant intellectuels-là. Après l'élection de François Hollande, ils défilent devant les micros partout pour dire que oui, l'élection de Hollande va changer quelque chose. Mais ça ne va rien changer en Afrique. Il n'y a que les intérêts de la France qui vont prévaloir. Il n'y a que les intérêts de la France qui vont prévaloir. Ouvrez les yeux, chers amis africains, ouvrez les yeux. Idriss, bonne journée. Au revoir.
C'est Diallo de Paris. En fait, moi je vais dire une seule solution pour tous les Africains. Pour qu'il n'y ait plus de coup d'État en Afrique, pour que les rébellions cessent, la meilleure solution d'avoir une armée africaine ou bien d'avoir, comme je suis de l'Afrique de l'Est, avoir une armée ouest africaine, Mali, Burkina, Sénégal, Côte d'Ivoire, Niger, toutes ces armées-là, ils n'ont qu'à dissoudre toutes ces armées et former une seule armée. Ça veut dire que s'il y a un problème dans un État, l'armée va combattre ces problèmes-là. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de coup d'État en Afrique de l'Est. C'est la seule chose que moi je peux dire aux Africains. Afrique, battez-vous pour l'Afrique. Ne sois pas l'ennemi de l'Afrique. Ok, merci.
Oui, ami du JDA, bonjour. J'appelle par rapport à l'élection de Madame Zuma à la tête de l'Union africaine. Donc voilà, franchement, nos politiciens africains, là, ça commence à être grave, ça commence à diviser l'Afrique comme ça, là, avec les histoires de francophonie, anglophonie. Mais ça veut dire quoi, ça? Alors que l'Afrique traverse la crise la plus grave, alimentaire, sécuritaire, au lieu de se donner la main et avancer, non, on est là, les politiciens, pour des intérêts personnels, à diviser ce beau pays. Ce continent-là, là. Continuez, hein. Mais continuez, là. Vous l'aurez pas. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Et pendant que vous y êtes, en fait, hein. On peut faire l'Afrique pauvre et l'Afrique riche aussi, hein. Merci.
Amis du JDA, bonjour. Aujourd'hui, j'appelle pour me réjouir et partager cette joie avec beaucoup de femmes d'Afrique concernant l'élection à la commission africaine de Madame Zuma. Je crois que l'heure de gloire a sonné parce que on ne peut pas toujours avoir les mêmes noms, les mêmes figures dans les structures d'Afrique, surtout en ce qui concerne la politique. Donc aujourd'hui, moi, je suis très 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 contente qu'une femme soit élue à la tête de cette institution parce qu'il y a peut-être que il n'y aura sûrement pas de miracle, mais les choses pourront bouger quand, en ce qui concerne une femme, parce que les femmes ont une autre vision de la politique dans notre continent. Et je suis certaine que cette femme amènera à bon port cette grande mission qui lui est confiée aujourd'hui. Et tout cela ne fera que faire la fierté de la femme africaine, parce que je crois que nous en avons besoin dans ce moment terrible où on est toujours dans le déclin. En ce qui concerne notre beau continent, parce que les gouvernements nous ont tellement dessus. Et là, aujourd'hui, victoire, 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 et bravo, et bon courage à Madame Zuma. Merci, et bonne journée.
01 55 07 58 05 ou 00 33 1 55 07 58 05, si vous appelez d'Afrique ou d'ailleurs.
Bienvenue dans le JDA pour intervenir en direct dans l'émission. C'est le 01 55 07 58 00 depuis la France et de partout ailleurs dans le monde. C'est le 00 33 1 55 07 58 00. Retour sur quelques événements de l'actualité de cette semaine avec deux invités. J'ai le plaisir d'accueillir dans ce JDA Bernard Derty, journaliste, analyste politique. Bernard Derty, bonjour.
Bonjour.
Également, nous sommes où nous serons avec Bakary Traoré, journaliste, analyste politique, juriste et chercheur. Bakary Traoré, vous êtes là. Bonjour. Ah, il n'est pas là encore. Alors, Bernard Erti, tout d'abord, une actualité qui alimente actuellement les commentaires dans les milieux diplomatiques. Le premier ministre éthiopien, Meles Zenawi, hospitalisé depuis mercredi dernier à Bruxelles dans un état jugé grave. Une information de sources diplomatiques, démentie d'ailleurs par le porte-parole du gouvernement éthiopien. Toutefois, cela fait maintenant près de 10 jours que Meles Zenawi n'a pas été vu à un événement public. Et son absence a été très remarquée au sommet des chefs d'État de l'Union africaine à Addis Abeba le week-end dernier.
Oui, effectivement, cette absence était remarquée. C'est d'ailleurs comme cela que l'on a su qu'il était malade, parce que un certain nombre, et notamment le président de l'Union africaine, le Gabonais Thomas Boni, a exprimé sa compassion par rapport à la maladie que pouvait avoir le premier ministre d'Éthiopie, Monsieur Meles Zenawi, et c'est comme cela, effectivement, que l'affaire est partie et que l'on a su qu'il était malade. Alors, est-il gravement malade? Est-il en fin de maladie? On ne sait pas très bien. Certains prétendent effectivement qu'il était hospitalisé à Bruxelles. D'autres disent dans un hôpital américain en Allemagne. Tout est dit à son propos. Mmh. Ce qui est sûr, c'est qu'il était absent. Ce qui est sûr, c'est qu'il est certainement malade. Quelle est la gravité de sa maladie? Pour l'instant, on ne peut pas le dire. Mais dans tous les cas, on sait que cet homme qui est un ancien étudiant de médecine qui a fait qui a eu la possibilité avec son parti de pouvoir en quelque sorte remplacer le pouvoir communiste de Mengistu et qui est en place depuis maintenant près de 21 ans, oui, c'est l'homme fort de l'Éthiopie.
Mmh. Et qui a d'ailleurs engagé un remarquable programme de développement dans son pays. On lui prête beaucoup de qualités de gestionnaire. On parle d'un homme rigoureux, très appliqué, très volontaire devant les bailleurs de fonds notamment.
Oui, sur le plan économique, il ne fait pas de doute qu'il a une capacité de discussion avec les différents bailleurs de fonds, qu'il connaît bien sa partie. Oui. On peut dire aussi qu'il y a eu un développement économique de l'Éthiopie. En revanche, et là c'est à mettre sur le plan négatif, c'est que sur le plan des droits de l'homme et de la démocratie, alors là, il n'en est pas de même. Oui. Ça reste tout de même un autocrate, et ça reste aussi, par le fait même qu'il est là depuis 21 ans, comme quelques-uns de ces chefs d'État africains qui s'accrochent au pouvoir. Alors le fait-il parce qu'on le lui demande, ou le fait-il parce que c'est un autocrate? Là encore, la question doit être départagée. En tout cas, ça n'est pas une parfaite démocratie que l'Éthiopie d'aujourd'hui, même si elle a connu, par rapport à Mengistu, un développement particulièrement intéressant.
Ça. Un dernier mot sur ce sujet. Bakary Traoré, vous êtes là?
Oui, Francis, je suis là, tout à fait.
Oui. Que pensez-vous de cette gestion un peu soviétique de cette nouvelle Alors, évidemment, on apprend que Meles Zenawi est hospitalisé à Bruxelles, démenti formel du gouvernement, mais enfin, il est absent.
Oui, pour l'instant, nous prenons l'information avec les bouts de pincettes. Comme l'a dit Bernard Erti, effectivement, c'est aussi des sources diplomatiques qui ont vraiment fait sortir l'information comme quoi il serait hospitalisé. Mmh. Mais cela dit, moi je pense que vous avez parlé tantôt de régime soviétique.
Non, de gestion soviétique de l'information.
De cette information. Mais je pense qu'il faut... que Meles Zenawi dirige un État fédéral qui a connu des sérieux problèmes depuis des années, son indépendance, et surtout ce fédéralisme ethnique. Et je pense que le pouvoir central qu'il a incarné, ce pouvoir fort-là, a pu stabiliser le pays, sans oublier également tous les prouesses économiques qu'il a eu à faire. Par exemple, je rappelle qu'en 2009, par exemple, il a eu l'Éthiopie avait un taux de croissance de 9%. Oui. En 2008, il a fait près de 8%. Oui. Donc tout ceci font que il a pu incarner cette stature d'homme d'État qui a pu stabiliser non seulement un pays mais toute la région. Sans oublier également les conflits frontaliers avec ses pays voisins, la Somalie, l'Érythrée, et qui d'ailleurs finalement en 93 a pu prendre son indépendance. Oui. Mais je pense que d'une manière générale, son départ, ça risquait de laisser un vide. Ça risquait de laisser un vide non seulement sur le plan politique, mais également surtout sur le plan stabilité au niveau sécuritaire.
Mais pour l'instant,
sans oublier également que sa stature d'homme d'État le fait faisait que, même au niveau continental et régional, ben, il représentait l'Afrique, notamment au sommet Copenhague, par exemple.
Cela dit, ce n'est pas une raison funèbre. Hein. Pour l'instant, le Premier ministre éthiopien, Meles Zenawi, est hospitalisé, rien que seulement hospitalisé, nous dit-on, hein, depuis mercredi dernier à Bruxelles. Hein.
Tout à fait, tout à fait. L'information reste pour l'instant non confirmée du point de vue du gouvernement éthiopien. C'est donc nous restons sous nos réserves. Mais cela dit, c'est quelqu'un qui a un bilan contrasté, comme on vient de le souligner. Ouais. Sur le plan politique, bien sûr, il faut bien le souligner que la situation n'est pas tout à fait rose par rapport aux questions des droits de l'homme, mais également par rapport au plan politique à l'opposition. Quand on essaie de voir les dernières élections en 2010, avec un taux de participation de 90%, ben il a rapporté avec un taux score soviétique de 99%.
Oui.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Vous écoutez l'auditeur avant de passer au premier sujet de ce JDA. Monsieur Alassane qui nous appelle. Monsieur Alassane, bonjour. Il n'est pas là, hein, me dit-on. Mais très bien, parlons à présent, Bernard Dertie, Bakary Traoré, parlons de l'élection de la présidence de la Commission de l'Union africaine, la sud-africaine Nkosazana Dlamini Zuma, la première femme à la tête de l'organisation panafricaine, mais aussi première responsable politique anglophone et d'Afrique australe à présider l'exécutif de l'Union africaine. Alors, Bernard Dertie, quel commentaire vous inspire cette élection qui est intervenue, il faut dire, après un duel féroce entre la candidate sud-africaine et le président sortant, Jean Ping, le Gabonais Jean Ping?
Ben, on peut se dire qu'il y a là, sur le plan de l'Afrique du Sud, un résultat qui est tout à fait intéressant. Alors, est-il intéressant pour l'Afrique entière ou est-il intéressant pour l'Afrique du Sud? C'est la question que l'on peut se poser. Jusqu'à présent, dans le cadre des accords non écrits, les grands pays de l'Afrique n'avaient pas ne se présentaient pas des postes de responsabilité aussi importants. Et pour la première fois, bien que ce soit une femme, eh bien, il y a eu une représentante. Il y a une représentante d'un des grands pays d'Afrique qui se trouve à la tête de la commission de l'Union africaine. Alors là, il y a un problème qui se pose et qui ne se pose pas simplement en matière de francophone, anglophone, Afrique australe contre l'Afrique de l'Ouest, etc., etc. Il y a réellement un problème de savoir pour quelle raison l'Afrique du Sud a souhaité avoir ce poste. Alors certains disent qu'ils ont dû pour l'avoir, en tout cas c'est ce que dit le ministre des Affaires étrangères kényan, qu'ils ont un peu tordu le bras à un certain nombre de pays pour avoir le nombre de voix suffisantes pour obtenir cette présidence. Le fait est qu'on peut se demander quel est l'intérêt pour l'Afrique du Sud, ou plutôt si, on voit tout de suite l'intérêt, il y a un intérêt économique, mais il y a aussi un intérêt politique. Puisque l'Afrique pourrait être le premier des pays à être représentant permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est ce qu'elle souhaite. Et le fait d'avoir une de ses représentantes comme étant président de l'Union africaine, ça pourrait l'y aider.
Bakary Traoré, alors maintenant qu'elle est élue, hein, Madame Dlamini Zuma, est-ce que vous pensez qu'on va assister à un changement de style? Et comment vous imaginez ses futurs rapports avec les chefs d'État? Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait, par exemple, davantage affirmer son autonomie vis-à-vis de ses chefs d'État?
Ben, je pense que bon, pour l'instant, il est trop tôt de faire un jugement de valeur pour l'instant. Mais ce qui est sûr, son agenda sera vraiment très très chargé. Déjà avec les trois foyers de tension en Afrique. En Afrique de l'Ouest, vous avez les dossiers maliens où les groupes irrédentistes rebelles ont envahi les trois régions au nord du Mali. De l'autre côté, en Afrique de l'Est, vous avez le dossier entre la République du Soudan et la République du Sud du Soudan qui s'affrontent. Et en Afrique centrale, vous avez ce dossier brûlant de la RDC entre la FARD et les armées, les éléments armés. Donc, je pense que c'est à l'aune donc de la résolution, ou en tout cas la résolution de ces trois conflits, où on peut faire une idée de sa forte personnalité qu'elle puisse incarner. Déjà, il faut rappeler que c'est une vraie militante, une battante au niveau de l'ANC, et puis en même temps, elle a occupé jusque-là donc un poste important au ministère de l'Intérieur en République sud-africaine. Donc c'est une femme de carrure, c'est une femme qui a une certaine personnalité, et nous verrons à l'œuvre et si elle pourra justement dépasser ces clivages francophones, anglophones, pour vraiment se se dédier à la cause de l'Afrique. Et elle a déjà prêté serment par rapport à ça. On la jugera sur les résultats.
C'est clair. On écoute Alassane. Bonjour, monsieur Alassane.
Oui, bonjour Monsieur Francis et à vos invités. Voilà, moi je suis quand même sceptique quant à l'élection de Madame Zuma. Pour moi, ça reste Madame Zuma parce que Zuma avait quand même 4 femmes et entre les femmes et Zuma quand même, il y a quelque chose vraiment à dire. Bref, il y a autre chose quand même que je pense. L'Afrique du Sud, c'est la voix de la Chine. Quand je pense que les prix Nobel de la paix qui voulaient se rendre pour l'anniversaire de Laurent Tutu, ils n'ont pas obtenu les visas parce qu'il y avait la Chine. Pour moi, l'Afrique, c'est la voix de la Chine. C'est quand même un pays quand même xénophobe où le radicalisme quand même existe et autre chose quand même. Je n'ai pas entendu vraiment les projets. Pour moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est les coups d'État. Quand est-ce que l'Afrique sera des coups d'État? Quand je pense au Mali, je reviens là-dessus. Et en ENA, il y avait la liberté de la presse. Mali était premier économique parce que les processus, ils ont prétexté comme manque de démocratie alors qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques, la liberté de presse exercée, tout ça. Oui. Quand même, je suis inquiet. Je suis inquiet vraiment de ce retour en arrière. Que ce soit économique, que ce soit éducatif, que ce soit en tête. Que pensez-vous de cela?
On comprend très bien, Alassane. Merci infiniment. Merci de votre concision. On écoute M. Albert, notre auditeur. M. Albert, bonjour.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Moi, je voulais juste intervenir par rapport à l'élection de Madame Zuma.
Très bien.
Mais je suis très content parce que M. Jinping, si en tant qu'Africain, je pense qu'il n'a pas assumé son rôle de président de la Commission. Je prends par exemple deux cas, la guerre de la Libye et la guerre de la Côte d'Ivoire, ainsi de suite.
Oui.
C'est un France-Africain, comme on le dit, parce qu'il a préféré voyager, aller dans les grands hôtels que de s'occuper des problèmes africains. Parce que nous les Africains, on veut quelqu'un qui peut dire oui, qui peut dire non. Mais pas seulement quelqu'un qui est là pour ses propres intérêts, et seulement qui suit quelqu'un pour dire, bon, je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord, ainsi de suite. Mmh. Nous, on veut véritablement quelqu'un qui peut dire non, soit aux grandes puissances, comme on le dit.
Oui.
Je suis très content pour l'élection de Madame Zuma.
Eh bien, vous êtes très content, Albert, c'est parfait, merci beaucoup. Encore un auditeur sur ce sujet, on passera à deux autres sujets, parce qu'il nous reste très peu de temps. Thierry, bonjour.
Oui, bonjour. Je suis atterré d'entendre des choses extraordinaires. Vous savez, j'adore Africa numéro 1, et donc tout ce que je peux apprendre sur Africa numéro 1 rentre un peu dans le décours de ma vie. Mais quand j'ai entendu dans le grand journal, déjà la semaine dernière, quelqu'un qui disait qu'il voulait l'élection de Madame Zuma, tout simplement parce que c'était une femme de caractère, une femme de carrière, quelqu'un qui pouvait faire quelque chose pour l'Afrique. Ben, moi, je m'étonne. Francis, je sais que être président de la commission de l'Union africaine, c'est tout simplement entériner ce que les présidents africains ont décidé. Moi, je sais qu'il n'y a pas d'autonomie en tant que président de la commission. Oui. On ne fait que travailler et à partir du consensus, voire décisions prises par les différents présidents, on fait quelque chose. Je n'ai jamais vu une autonomie qui donne à aucun de la commission, à aucun membre de l'Union africaine les mains libres pour le décider et faire ce qu'il veut. Le président africain n'a jamais donné une once d'autorité, une once de liberté aux gens de l'Union africaine. Donc si maintenant on me dit que Madame Zuma, en venant, peut faire quelque chose, ben chiche, à partir du moment où elle peut mettre l'armée de son pays pour, avec les avions, avec la logistique et tout, aller au nord du Mali, chercher tous ces gens-là qui sont en train d'assassiner et de tuer les Maliens, je dis chiche, si les gens viennent et qu'on dise que cette dame a dit la porte de sortir du Congo, le Kinshasa, et de laisser les gens de la zone vivre librement, j'applaudis des deux mains. Mais je ne crois pas que Madame Zuma pourra passer outre la décision des présidents africains, auquel cas, je veux dire que j'ai espoir pour l'Afrique, que l'Afrique va changer.
Merci mon cher Thierry, merci infiniment.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Alors, Bernard Verti, Bakary Traoré, rapidement, un regard hein, sur ces élections au Congo-Brazzaville. Premier tour des législatives, c'était le 15 juillet dernier. Alors, un confrère, un journaliste d'une radio privée, Destin Otondé, a décrit la manière suivante, hein, la campagne électorale et l'ambiance du scrutin, je le cite, « C'est un carnaval, carnaval, car ça ressemble trop à ce qu'on voit à la télé depuis Rio. » Il décrivait ainsi un défilé de voitures hein, avec un orchestre placé sur le toit d'un des véhicules 4x4. Alors, une démonstration de force et de puissance financière d'un candidat du pouvoir. Alors surtout, le Parti congolais du travail, hein, parti présidentiel, était persuadé, avant même la tenue du scrutin, de conserver la majorité absolue au sein du Parlement. Bernard Verti.
Ben oui, non seulement il était persuadé, mais finalement il l'a, puisque de toute façon, dans la précédente législature, il n'y avait que 12 représentants de l'opposition. Là, il y en a un peu moins encore. Oui. On peut se dire effectivement que c'est pas une élection à la soviétique, mais ça y ressemble tout de même. Et en plus de ça, ceux qui disent qu'il y avait un peu de carnaval, c'est sûr, puisque les observateurs des différents pays de l'Union africaine ou de ont remarqué qu'effectivement il y avait des retards en matière d'élection, d'ouverture de bureaux, des bureaux qui n'auront jamais été ouverts. Et puis en plus, il faut tout de même le noter d'une manière très nette, oui. C'est que la participation même à ces élections est très très faible, puisque l'on parle d'un chiffre qui serait autour de 15%. Oui. Donc est-ce vraiment une élection? On peut se le demander.
On peut se le demander, Bakary Traoré, est-ce vraiment une élection? À quoi servent ces élections dans ce contexte?
Mais dans ce contexte, ce qu'on peut dire, c'est que les observateurs, disons, ont du pain sur la planche, parce que ce côté carnavalesque, comme le vient de dire justement notre confrère, vraiment, c'est déplorable quand on essaie de voir la façon dont les élections sont financées, et sans oublier que dans le cadre de cette élection législative au Congo, eh bien, beaucoup de ces candidats du parti, le Parti congolais du travail, président Sassou, sont des directeurs, des ministres, des hauts fonctionnaires de l'administration. Alors on a un droit de se poser des questions, le lien entre le financement de ces campagnes hein, avec ces candidats qui sont au pouvoir. Et l'enjeu majeur aussi qui est derrière ces élections législatives, à mon avis, c'est que est-ce que le président Sassou, qui a fait 30 ans au pouvoir déjà, oui. ne va pas utiliser la future majorité qui profite déjà à l'horizon pour lui, parce qu'on a dit qu'il a eu, il est accrédité des 60 sièges déjà sous les 135 sièges. Oui. Est-ce qu'il va pas profiter de cette future majorité pour modifier la constitution afin de se représenter encore en 2016?
Bah oui, pour l'instant, d'ailleurs, il lui est interdit de se représenter d'ailleurs. Bakary Traoré, on arrive à la fin de l'émission, alors je vous garde, hein. Juste un mot peut-être sentimental, émotionnel, hein, sur cet anniversaire, Nelson Mandela Madiba, qui a soufflé sa 94e bougie mercredi dernier. Alors, c'était aussi la journée internationale de Nelson Mandela, journée, dit-on, de reconnaissance d'un legs exemplaire qui incarne la sagesse, la force et la distinction. Nelson Mandela, donc, icône universelle de la paix et de la tolérance.
Oui, c'est monsieur de tous les superlatifs, Francis, quand on parle de Nelson Mandela. Hein, la sagesse, mais surtout, on peut le résumer par ce concept de sagesse. Sagesse parce qu'après 27 ans derrière les barreaux, quand il est venu au pouvoir, il a fait qu'un seul mandat, et ce seul mandat, il l'a dédié à la réconciliation des Sud-Africains. Et en plus, et quand il s'est retiré en plus, il a servi d'être cet ambassadeur pour la paix à travers le monde. Oui. Donc, dès qu'on parle de lui, c'est vraiment ce côté sagesse politique cette leçon de sagesse politique qu'il a pu donner à nos leaders africains. Et je pense que ça doit beaucoup inspirer nos hommes politiques, parce que quand on voit un dirigeant faire des dizaines d'années à la tête d'un État, il a prouvé le contraire, qu'on peut se contenter d'un seul mandat et de bien faire ce qu'on a à faire et sans pour autant s'éterniser au pouvoir.
Bakary Traoré, merci infiniment. Bernard Verti, un mot sur cet anniversaire, hein. Nelson Mandela, toujours parmi nous, parmi les siens, en tout cas.
Oui, on peut dire ce qui était dit par Bakary Traoré, c'est un grand bonhomme, c'est un grand bonhomme pour l'Afrique, c'est un grand bonhomme, et de nombreux Africains devraient le prendre pour modèle, et je crois que la plupart, et l'Afrique, le prend pour modèle, mais on devrait le suivre dans ce qu'il a dit, et surtout dans ce qu'il a fait. Cela dit, en ce qui concerne l'Afrique du Sud, oui. Nelson Mandela, c'est vrai, est là, il est reconnu par tous mais l'Afrique du Sud n'a pas vraiment changé. L'apartheid reste dans les têtes. Si sur le plan politique, les choses ont changé, en revanche, sur le plan économique, le pouvoir blanc continue de diriger ce pays, et même lorsqu'on se rend en Afrique du Sud, on se rend bien compte que ce qui a changé est tout de même minime. Ça reste au niveau d'un certain nombre de villes, mais les Blancs continuent à se calfeutrer dans leurs propriétés,
c'est
la fin de l'émission. Ça n'a rien changé.
Oui, oui, la nation arc-en-ciel reste à reconstruire, on l'a bien compris, Bernard Derty reste à construire. Merci infiniment, Bernard Derty, Bakary Traoré, c'est la fin de l'émission préparée par Guy Calenda, réalisée par Jérémy Boucher. Bonne journée à l'écoute d'Africa numéro 1 et merci de votre fidélité.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.